au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver, Jean-Luc Gréau, auteur prolifique qui vient de publier chez Gallimard un ouvrage particulièrement décapant, La trahison des économistes, 245 pages, 15,50 euros. Monsieur Gréau, bonjour.
Bonjour, monsieur Chambon.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie. Alors, je connaissais déjà, pour avoir suivi vos publications, votre côté incisif. L'avenir du capitalisme en était le témoin, paru aussi d'ailleurs chez Gallimard. On vous découvre au moins, pour le titre aujourd'hui, provocateur. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, quelle mouche vous a donc piqué pour tirer ainsi dans votre camp, après avoir observé, il est vrai, qu'un vent mauvais souffle sur les économistes contemporains, sur leur pensée et sur leur science. Certes, les désillusions sont à la hauteur des espérances que la politique économique a fait naître, comme les promesses de réponses claires ou sur les grandes questions, en particulier sur l'emploi, sur les retraites, sur la monnaie, sur la compétitivité. Les désaccords des experts alimentent par ailleurs le doute et l'incapacité des conseillers des princes en matière économique qui ne permet pas de résoudre des problèmes concrets, a tendance à les disqualifier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous-même, vous êtes économiste.
Alors, vous avez parlé de provocation, je suis économiste, oui, de formation et d'expérience, mais vous avez parlé de provocation en présence de quelqu'un qui n'est pas provocateur par tempérament.
Bon. Mais c'est le titre qu'il est, c'est
le titre. Oui, le titre l'est, et le contenu peut l'être jusqu'à un certain degré. Ce qui m'a mobilisé, c'est le fait que nous avons fait une expérience d'un nouveau capitalisme néolibéral, je le traite de néolibéral. Il a au moins 25 ans d'âge, sinon 30 ans, et nous n'avons pas fait encore le bilan de cette expérience comme on devrait le faire, au moment même où nous vivons une crise financière d'une ampleur sans précédent depuis les années 30 ou depuis la guerre. Je me réfère à Alistair Darling, chancelier de l'échiquier anglais, qui a dit il y a deux jours au Guardian, nous vivons la plus grave crise depuis 60 ans.
On est tout à fait d'accord, nous allons y revenir. Avant, quelques mots quand même d'une présentation, avant de revenir sur vos réflexions. Donc je l'ai dit, vous êtes économiste et consultant, vous avez fait des études de sciences économiques, vous êtes par ailleurs à l'occasion chroniqueur, et vous avez fait paraître de nombreux ouvrages, notamment en 1998, Le capitalisme malade de sa finance, et en 2005, un ouvrage pour lequel vous avez été nominé par le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière, L'avenir du capitalisme. C'est dire si vous êtes reconnu par vos pairs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de comprendre votre thèse, la trahison des économistes, je voudrais revenir un peu en arrière pour saluer la pertinence de votre ouvrage de 2005, L'avenir du capitalisme, dont Merci. Les vertus prédictives, à mon sens, n'ont probablement pas suffisamment été soulignées. La crise financière mondiale et par ailleurs un certain nombre d'autres points que vous avez soulignés, la même façon que vous interrogez sur la viabilité du capitalisme, sujet qui depuis est devenu majeur pour nombre d'acteurs nationaux et internationaux, marque votre capacité de projection dans l'avenir. Pour vous, le capitalisme allait à sa fin, non pas comme l'avait prévu Schumpeter à cause des facteurs politiques, sociaux et moraux, mais à cause de l'incohérence de son fonctionnement et en particulier des faiblesses structurelles de l'économie américaine qui vit pour et par le crédit. Alors, un mot sur ce plan, avant de venir sur votre dernier ouvrage.
Oui, alors le point, je me réfère à l'ouvrage précédent, où je parlais de l'anomalie américaine, un système économique qui connaît, par certains côtés, une grande efficacité. Je pense au domaine informatique, au domaine de l'aéronautique, mais par ailleurs, effectivement, a bâti sa croissance durable sur une injection permanente de crédit. Bon, il y a une bulle de crédit aux États-Unis qui a commencé vers les années 80 et qui n'a cessé de s'accroître. Cette bulle de crédit s'est accompagnée d'un taux de défaillance des ménages américains qui n'a jamais cessé d'augmenter pratiquement depuis 1980, année de l'élection de Ronald Reagan. Bon. Et nous sommes parvenus, semble-t-il, au terme de cette expérience quand, à partir de l'automne 2006, on a vu une défaillance en chaîne des ménages qui est à l'origine de la crise financière que nous vivons. Alors je pense que cette anomalie américaine est en train de révéler son aspect détestable et dévastateur par l'intermédiaire de la crise financière derrière laquelle courent les banques centrales et le gouvernement du monde entier.
Mais ce qui est remarquable, c'est que dès 2006, vous aviez vous-même déjà, et vous étiez un des premiers, et pour ne pas dire un des seuls, à avoir souligné cette dérive. Alors, la transition est toute faite pour entrer dans l'analyse de votre dernière parution, la trahison des économistes. Alors, quelle est cette trahison? On ne trahit bien que ses amis, tout le monde le sait, pas ses ennemis. Je sais que les économistes en ont beaucoup, mais est-ce que les économistes ont aussi quelques amis? Je cite d'ailleurs, avant de vous laisser répondre, comme ça je pense que le lecteur sera mis en appétit, ce que vous dites dès l'introduction. Jamais, depuis les débuts de la réflexion économique, on avait vu une telle coalition de représentants de la discipline. Alors que l'histoire des théories économiques est tissée d'une succession de controverses, ardentes et le plus souvent violentes, sur la valeur, la nature de la monnaie, les formes de la concurrence, le rôle présumé du capital, les bienfaits ou les dangers de l'intervention publique dans la marge des affaires, le débat d'aujourd'hui nous offre une morne pleine. La France, réputée terre d'élection pour la critique, offre une illustration révélatrice de l'alignement des idées économiques sur les étalons internationaux. Un véritable clergé composé d'économistes institutionnels, de banques, d'organismes de recherche s'y emploient à escamoter tout ce qui pourrait être mis en question pour éclairer les dirigeants politiques et cette fraction de l'opinion dont la curiosité intellectuelle n'a pas encore été découragée. Voilà de quoi nous mettre dans l'ambiance.
Oui, ben, je vais essayer de présenter aussi simplement que possible le diagnostic en me rapportant à la crise que nous avons connue en 2001-2002. À la suite de l'explosion de la bulle Internet, une coalition s'est formée de différents économistes, et principalement en France, pour nous dire qu'en réalité, il s'agissait d'un accident de parcours et que ça allait être l'occasion d'un remaniement de la gouvernance économique et financière à l'échelon international, tout à fait bienfaisant, et qu'ensuite l'économie française, européenne, mondiale, allait reprendre un cours normal. Or, on a parlé à cette époque d'un nouvel âge du capitalisme. Donc, la crise a été l'occasion, en fait, d'une hagiographie du système. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'en réalité, nous retombons très lourdement dans une crise qui, elle, est plus importante par l'importance des sommes en cause, par le nombre de pays qui sont concernés, que la précédente.
Donc, ce que vous dites, c'est que les cercles des économistes ne tournent plus rond, si je peux me permettre cette insertion. Et en fait, vous rejoignez, je dirais, une dénonciation qui a déjà été forte de la part de François de Closet dans le divorce français paru chez Fayard en 2008, où il reprochait, bien entendu, aux économistes ce que vous êtes en train de dire, à savoir leur silence et la pratique du consensus qui manifeste une volonté de fuir le débat de fond. Pourquoi ?
Alors, ce consensus est largement une connivence, et François de Closet a raison dans le principe de le dénoncer. Il faut revenir au débat. Pourquoi le débat, s'est-il en quelque sorte appauvri jusqu'à se tarir? C'est une question qui reste énigmatique. Je pense tout de même qu'on peut trouver un élément d'explication dans le fait que, au sein de l'économie dite capitaliste, un ensemble appelé les marchés financiers a pris le rôle dominant, et que les économistes sont en fait ralliés à cette conception de la marche des économies qui s'est formé au sein même des marchés financiers. C'est là mon élément d'explication. Autrement dit, les analystes, les opérateurs des bourses et des marchés du crédit, des marchés des devises, des marchés des futures, ces opérateurs ont en quelque sorte formé l'esquisse d'une nouvelle vision de l'économie à laquelle se sont ralliés les économistes institutionnels.
Alors ce que vous dites, donc la trahison des économistes, elle est principalement intellectuelle. Je reprends ce que vous dites dans votre ouvrage. Des pratiques opportunistes pour saisir des fragments de réflexion des grands maîtres, dont on revendique l'héritage, tout en les détachant de leur contexte, travestissant Smith, Mill, Schumpeter, oubliant Malthus. C'est une synthèse de ma part, hein. Bon, c'est pas exactement ce que j'avais écrit. Ruinant Keynes, qui n'a jamais prôné le laxisme inflationniste et l'excès de la redistribution. L'originalité, ça par contre c'est bien vous, l'originalité monstrueuse du nouveau capitalisme résulte de cette expérience néolibérale pétrie d'idéologie traditionnelle et servie par des instruments keynésiens. Dur, dur.
Oui, absolument. Nous, en fait, ce qui est tout à fait bizarre dans l'expérience que nous vivons, c'est que les acteurs déterminants, moteurs à la fois de cette praxis, hein, c'est-à-dire à la fois de la vision économique et de la marche des affaires, ces acteurs ne pourraient pas exister si auparavant nous n'avions pas connu la grande expérience d'après-guerre, très réussie, avec ce qu'on a appelé la société de consommation de masse, mais en parallèle la société d'épargne de masse. Cette société d'épargne de masse a donné lieu à la création d'une multitude de fonds d'épargne qui sont les grands acteurs des marchés financiers et qui, en fait, donnent leur consigne directrice à l'ensemble de l'économie.
Alors, vous dites au chapitre 7, en forme de conclusion, mais qui corrobore l'ensemble de vos développements précédents, en finir avec l'expérience néolibérale. Alors, on a vu tout à l'heure, vous en avez parlé, l'épuisement du modèle anglo-américain. Et vous faites un grand développement sur une dégagée classique sur l'Europe, penser l'Europe à partir de ses valeurs et de ses intérêts. Et puis vous parlez de l'exception suédoise. Qu'en est-il ?
Oui, il y a un pays tout à fait excentrique qui retient mon attention depuis longtemps. Ce pays a été très keynésien, avec une forme de co-gestion du pays par le patronat, les syndicats et le gouvernement démocratique. Il s'est éloigné quelque peu de cette vision, mais il a gardé des principes très forts d'organisation. Et à l'occasion du surgissement de la crise récente, on s'est aperçu que ce pays présentait des caractéristiques dérogatoires à la vision des économistes néolibéraux. Premièrement, la stabilité du capital des entreprises. Alors que la règle, c'est la mise en concurrence des entreprises à la bourse, avec la mobilité des actionnaires, l'infidélité proclamée des actionnaires, ce pays a en fait un actionnariat très stable, de familial ou d'organismes financiers, qui reste au capital des entreprises suédoises, qui sont pour autant très compétitifs à l'échelon international. Deuxième caractéristique, ce pays n'a pas titrisé. Vous savez ce que signifie la titrisation ? C'est-à-dire la faculté des prêteurs de se défausser du risque de crédit en le vendant, revendant le prêt à un fonds de placement déterminé. Donc, cette titrisation, il ne l'a pas connue. Et ce pays donc n'a pas connu non plus les remous dévastateurs de la crise financière qui a commencé il y a maintenant un peu plus d'un an. Troisième caractéristique. Et là, je suis presque scélérat dans ma trahison. Il n'est pas dans l'euro. Il n'a pas eu besoin de la monnaie unique pour conserver un profil de croissance et une compétitivité internationale qui est toujours reconnue. Donc, on peut dire qu'il incarne la contradiction formelle des thèses qui nous ont été infligées par les économistes que je nomme néolibéraux.
Mais ce mode de fonctionnement à la suédoise porte un nom qui m'échappe chez les économistes, c'est-à-dire la façon de profiter de ce que font les autres et de rejoindre le groupe sans avoir à payer le prix. Ça porte un nom, mais ça m'échappe tout de suite. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans la démarche suédoise ? Ou la démarche anglaise, d'ailleurs, aussi.
Non, l'Angleterre et la Suède sont à l'opposé l'une de l'autre. Hein. Ouais. La Suède est un pays qui se développe par sa compétitivité, qui a une régulation monétaire interne. Et on peut dire ensuite qu'il a une très grande tradition. C'est sans doute les pays scandinaves, la Suède en tête, sont les pays qui ont les premiers éduqué leur population. Ça fait 4 siècles déjà. Lorsqu'on nous dit à Bruxelles ou dans les enceintes où la pensée, la bien-pensance s'exprime, qu'il faut faire de l'éducation, de la recherche, de développement, un pays comme la Suède est parmi les tout premiers au monde à l'avoir fait. Par conséquent, il n'y a pas de leçon à recevoir de ce côté-là. Bien entendu, il profite de la croissance mondiale. Mais il faut reconnaître que ce pays a toujours, aujourd'hui, les mêmes
grands partenaires... De la stabilité de l'euro.
De la surpuissance de l'euro.
Enfin, il n'y en a pas les effets négatifs.
Pour une monnaie, il n'y a que 3 étapes possibles, la surévaluation, la sous-évaluation ou la parité convenable.
Tout à fait.
Nous, la parité européenne n'est pas normale, nous sommes surévalués, et cela accentue le mouvement de localisation des activités performantes européennes au-delà de nos frontières. Donc, de ce point de vue, je pense que la Suède est au contraire un exemple de compétitivité internationale, où il est tout à fait normal que leurs entreprises trouvent les marchés qui correspondent à la qualité de leur production. En revanche, le Royaume-Uni, qui a largement abandonné son industrie, et s'est rabattu sur le crédit aux ménages et l'expansion des services financiers de la cité, est aujourd'hui pris au piège de ce modèle. Il a montré ses limites et les autorités bancaires de la Banque centrale anglaise, comme les autorités gouvernementales anglaises, sont désemparées.
Alors, qu'est-ce qui explique dans le comportement des acteurs suédois qu'ils ont agi de cette façon? Ils ont un affectio societatis plus fort que, on va dire, en moyenne. Ou est-ce que le modèle, la place de l'homme, le modèle social est différent? Parce qu'on entend quand même un peu partout faire référence, et notamment chez les politiques, à ce modèle suédois.
Je ne crois pas. Je vous ai donné le premier élément de référence d'un petit pays.
C'est un petit pays, voilà.
Tout ce qui est important, il est comme une caisse de résonance. Hein. Quand les PDG veulent s'attribuer des stocks options, cela fait scandale. Bon, et on rapporte le projet. Donc, ce pays vit un peu comme un village.
Un grand village. Avec une grande transparence.
un village à l'échelon mondial, mais un grand village avec une grande transparence. Et puis, le deuxième point, c'est que ce pays est excentrique. Donc, il ne veut pas être un modèle pour les autres. Comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme la France a voulu l'être d'une certaine façon, comme l'Allemagne et le Japon ont sans doute été peut-être à leur corps défendant. C'est un trop petit pays et un pays trop excentrique pour pouvoir incarner un modèle.
Donc, small is beautiful.
Small is good.
Is good.
Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Academy.
J'en viens donc à une autre question qui était un développement extrêmement intéressant et j'invite nos auditeurs à s'y reporter. Vous développez par ailleurs une théorie en contrepoint de celle de Daniel Cohen, qui, vous le savez, a fait paraître un ouvrage remarqué et remarquable, « Trois leçons de la société post-industrielle au seuil », et dans lequel il confirmait que notre société moderne était devenue une société de services, face-to-face, est devenue la base de toute production, le client et le véritable patron. Alors vous considérez, vous, dans votre chapitre 8, je crois, que la société, en fait, est devenue hyper-industrielle, c'est-à-dire, vous parlez d'un résistible déclin de la société post-industrielle. Alors voilà du vocabulaire, des néologismes qui sont intéressants. Alors, c'est quoi votre thèse? Alors,
d'abord, j'ai lu ligne à ligne l'ouvrage que vous avez cité,
bien sûr.
Remarquablement écrit, extrêmement pédagogique, mais qui exprime d'une façon la plus pédagogique possible un contresens d'analyse économique. Bon, premier point, nous sommes dans une économie où les activités dites industrielles, au sens classique du terme, les activités dites services, sont très enchevêtrées. Nous sommes ici dans un studio d'enregistrement. Nous avons des articles. Les journalistes exercent un métier de service. Nous avons des matériels qui sont des articles manufacturés complexes. Nous sommes retransmis grâce à des satellites de télécommunication mis sur orbite par des lanceurs complexes. Et les satellites eux-mêmes sont très complexes, sont des articles manufacturés qui incarnent la high-tech d'aujourd'hui. Et en même temps, ces objets sont assurés. Activité de service. Donc cet enchevêtrement des activités industrielles de service n'est pas vu. Je ne comprends pas pourquoi cette cécité, mais il n'est pas vu. Alors le deuxième point très important, et là il faut se rapporter à l'histoire économique de la France depuis la guerre, et surtout des 30 dernières années, les périodes les plus favorables du point de vue de l'activité générale et de l'emploi dans le secteur marchand et de l'équilibre de nos comptes publics, ce sont les périodes 87-90 et 97-2000 qui sont celles de la grande expansion industrielle, avec un rythme de 4 à 5% de croissance industrielle. Et hors de cela, nous ne pouvons pas avoir une vraie croissance. Confère le marasme que nous connaissons depuis 2001, et dont nous ne sommes pas sortis, surtout pas en 2008, où nous risquons d'avoir une croissance comprise entre 0 et 1%. Par conséquent, c'est le deuxième point. Troisième point, les grandes entreprises de services, celles qui se développent sur des marchés larges, à l'échelon national ou international, ont en fait une organisation de type industriel qui leur a été léguée par les grandes firmes industrielles. Donc elles prospectent leur marché, elles font du marketing, elles ont des directions commerciales puissantes, elles essaient de trouver des partenaires pour se développer de la façon la plus efficace possible. Et ce modèle d'organisation est issu des firmes industrielles. Donc ce n'est pas le face-à-face du commerçant de quartier ou de l'artisan de quartier et de sa clientèle. De la même façon, là je me réfère à Gilles Lipovetsky, en fait ce à quoi nous assistons, c'est à la confrontation d'une masse indéfinie de biens et services qui se diversifie sans cesse, et de l'autre côté, d'un public d'acheteurs de plus en plus diversifiés et dont les mobiles sont de plus en plus difficiles à cerner, mais qui est là, qui est comme moteur de la demande finale.
Je vous lis exactement ce que vous écrivez. On ne saurait mieux dire. L'analyse tranchée de Gilles Lipovetsky, centrée sur un secteur d'activité de service situé au carrefour des productions industrielles et de la société d'hyperconsommation, nous aide à écarter la vision d'une société post-industrielle qui romprait non seulement avec la domination de la production industrielle, mais avec le mode de relation économique dominant de cette production. Ce serait une niaiserie de voir dans l'extension des services une bifurcation majeure du système économique concurrentiel. Ce à quoi nous assistons, bien au contraire, est l'approfondissement de la société industrielle sous la forme d'une société hyper-industrielle reflétée dans le miroir du marché par la société d'hyper-consommation.
Voilà.
C'est tout à fait ce que vous écrivez. C'est un chapitre particulièrement intéressant. Alors, vous parliez tout à l'heure de la France. On y vient. Chapitre 4, vous reprenez à votre compte la thèse de Christian Saint-Étienne. Enfin, en tout cas, elle est voisine et parallèle. La France est-elle en faillite ? Son livre récent qui est paru chez Bourin. Nous, vous référons d'ailleurs au rapport Pébrot, vous parlez des 30 piteuses. Je crois que c'est d'ailleurs un mot de Christian Saint-Étienne.
Nicolas Bavrez.
Ah oui, c'est ça, c'est de Nicolas Bavrez. Hein, de l'introuvable gouvernance et de la grande omission, page 131. Alors c'est quoi la grande...
La grande omission, c'est le fait qu'il y a deux choses à ne pas confondre, qui sont la dette publique intérieure, celle de l'État et des administrations en général, vis-à-vis de ses prêteurs ou de leurs prêteurs, et d'autre part, dette de la nation française, de l'économie nationale, vis-à-vis du reste du monde. Bon. Or, les situations sont extrêmement contrastées, et je cite à la fin de ce chapitre deux pays tout à fait à l'opposé l'un de l'autre, les États-Unis, qui ont une dette extérieure importante, qui donc doivent rendre compte un jour ou l'autre à leur prêteur, et le Japon, qui a la dette publique la plus lourde du monde, avec 150 ou 160% du PIB, qui va encore s'aggraver avec un plan de relance qui est en train d'être lancé, mais qui a des réserves de change, les deuxièmes réserves de change du monde. Ce pays ne peut pas être en faillite. Ce qui devrait nous importer, donc au premier chef, c'est la dette extérieure de la France, qui pour l'instant n'existe pas, mais qui pourrait apparaître si notre déficit extérieur, qui est apparu en 2004, devait se prolonger et s'aggraver comme il le fait en ce moment. Bon, c'est un premier point que le rapport Pébrot oublie, et que presque tout ce qui traite de la situation financière de la France oublie. Alors, c'est donc le préalable. Et après, il faut voir ce qui s'est passé au sein de nos comptes publics, proprement dit. La France n'est pas en danger d'être en faillite vis-à-vis de ses débiteurs extérieurs, puisqu'elle n'en a pas. En revanche, la gestion de son système public a été telle que nous sommes aujourd'hui à la tête d'une des dettes publiques, non pas les plus importantes du monde, mais quand même substantielles, et qu'il faudrait savoir pouvoir traiter.
Je lis ce que vous écrivez à la page 134, c'est aussi un développement extrêmement intéressant. Nous avons commencé à payer un véritable tribut économique à la mondialisation. Ce tribut nous exposerait à une faillite nationale proprement dite, dont la perspective est encore lointaine, s'il venait à s'aggraver, faute de politique commerciale protectrice de l'ensemble européen. Il contribue déjà et contribuera plus encore, si rien n'est fait, à déstabiliser notre système public et social en minant les bases économiques sur lesquelles reposent ces prélèvements. La question de la protection commerciale des secteurs français, exposée à une concurrence inégale, n'était pas au programme du comité Pébrot, mais n'était-ce pas cette question qu'il aurait fallu traiter au préalable avant d'exhorter la France à la réforme et nos compatriotes à l'effort ? Je crois que c'est effectivement plein de bon sens. Alors, dernier aspect, avant de conclure, un mot, bien entendu, sur l'économie financière que vous traitez très largement dans les chapitres 5 et 6. Vous toucher à la question du système bancaire qui est en plein dans l'œil du cyclone, si je puis dire, actuellement. Vous parlez de son effacement et du triomphe du crédit. Un mot peut-être sur ces contrastes entre l'accumulation financière et ce que l'on voit se dessiner à travers les hedge funds et les private equity.
Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce que nous avons vécu depuis 30 ans, c'est que l'expérience dite néolibérale s'est faite sur l'idée que l'épargne et le capital, au sens classique du terme, allaient être le fondement financier de la nouvelle croissance. Par opposition au recours au crédit qui était largement accepté dans la période dite keynésienne de l'après-guerre. Or, ce que nous vivons aujourd'hui est une crise à l'échelon quasi mondial, puisqu'il englobe au moins, cette crise englobe au moins l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale. Une crise du crédit qui est due justement à un dérapage du crédit. Alors, dans différents pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme des pays plus petits comme l'Irlande, l'Australie, même un pays comme la Corée, qui n'avait nullement besoin d'y recourir, il y a recouru. Et désormais, un climat de défiance légitime s'est instauré sur ces marchés du crédit. Alors comment se fait-il qu'on ait pu d'un côté dire « voilà la base de la croissance, c'est l'épargne » et de l'autre côté constater un recours inouï à l'instrument du crédit. Eh bien, il faut voir les deux ensemble. En réalité, les gens épargnent, mettent leur épargne dans des fonds de placement, ou une partie des personnes en tout cas, et pour valoriser cette épargne, les fonds d'épargne empruntent pour utiliser le fameux effet de levier que connaissent bien les économistes, afin de démultiplier les rendements, atteindre, comme le font certains hedge funds ou certains private equity, des taux de rendement non pas de 15% des capitaux propres, mais de 25%, voire de 30%.
Oubliant au passage que le risque, à un moment donné, vous rattrape.
Bien sûr.
Alors, malgré ce constat particulièrement alarmant, on comprend bien mieux votre raisonnement. Et en résumé, de toute façon, vous ne désespérez pas du capitalisme, vous ne désespérez pas non plus des économistes. Et vous avez d'ailleurs proposé 7 principes d'action. J'invite nos lecteurs à s'y référer. Une priorité, la priorité première, c'est cette...
En Europe occidentale, c'est la démographie.
C'est ça.
On a un handicap démographique énorme.
Ce n'est pas le cas de la France, par contre.
Non, ce n'est pas le cas de la France, qui fait exception à la règle. Mais justement, nous pourrions être quand même un modèle de ce côté-là. La politique familiale, la politique d'accueil des enfants dans les écoles a été l'un des facteurs déterminants de la bonne fécondité française. Toute l'Europe doit essayer de s'inspirer de ces méthodes, d'une façon ou d'une autre, pour retrouver une démographie convenable. Nous ne supporterons pas le poids des générations vieillissantes, très nombreuses, de plus en plus nombreuses, avec des générations de plus en plus maigres. Bon. Et c'est, je vois surtout le cas de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, qui sont des nations importantes au sein du système européen. Cet aspect est oublié. Alors, il faut savoir qu'un point d'écart de croissance entre les États-Unis et l'Europe occidentale est dû à cette défaillance démographique.
L'avenir, donc, ce sont nos enfants.
Ce sont nos enfants.
C'est quand même une évidence. Alors, je dirais sous forme
des enfants bien éduqués.
Des enfants bien éduqués et donc qui coûtent cher.
Qui coûtent cher.
D'accord. Sauf si c'est optimisé. Alors, je dirais, pour conclure, que cette contribution décapante à la nécessaire introspection des pensées économiques ne saurait pourtant ignorer les efforts continus de pédagogie réalisés par nos économistes dans un univers d'inculture notoire. Une société a les élites et les économistes qu'elle mérite. L'humilité doit rester la règle. Les grands anciens, Keynes et Popper, n'ont-ils pas les premiers évoqué les limites de leur science ? Humaine est donc perfectible, rien n'est donc perdu, d'autant que les apports nouveaux d'autres disciplines, la psychanalyse ou la philosophie, pourraient ouvrir d'autres pages de cette grande histoire. Je vous renvoie à l'ouvrage de Vivien Lévy-Garboua et de Gérard Marek, Macro-psychanalyse de l'économie de l'inconscient, paru en 2007 chez Pouf, et celui de Pascal Blanquet, Tractatus Economico-Philosophicus, 2008 chez Economica. Vous en pensez quoi, vous, de ces nouveaux apports ?
Ces nouveaux apports sont toujours utiles. Je crois seulement qu'il ne faut pas poser l'économie comme une science. Je crois que c'est un faux sens. L'économie est une science logique, c'est une discipline logique et conceptuelle.
Vous savez ce qu'en disait Keynes ? L'introspection et les valeurs sont aussi importantes que la méthodologie appelée scientifique. Et ce qu'en disait Popper, la connaissance scientifique des sciences réputées dures comme la physique progresse par anticipation, non justifiée, elle devine, elle essaie, elles forment des conjectures.
Exactement, et ces auteurs étaient plus près de la vérité que les apôtres de la science économique.
Donc on peut pardonner à nos économistes si quelquefois ils trébuchent. En tout
Mais
cas,
à condition qu'ils connaissent aussi leur chemin de Damas.
Absolument, d'accord. Plutôt que leur chemin de croix. Donc je rappelle cette parution, La trahison des économistes de Jean-Luc Gréau chez Gallimard. Monsieur Gréau, merci encore pour cet entretien.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie à nouveau.
C'était très plaisant. À très bientôt.